Auditeurs, auditrices du Studio Kalangou, bienvenue dans votre émission quotidienne, le forum du Studio Kalangou, une émission qui vous éclaire sur tous les sujets et qui vous permet de trouver des réponses aux questions que vous vous posez au quotidien. Le thème qui nous réunit aujourd'hui est « Contribution des acteurs non étatiques dans la lutte contre le changement climatique et ses effets, les initiatives porteuses d'espoir ». Le changement climatique, qu'est-ce que c'est? Quelles sont ses principales causes et ses conséquences? Quelles sont les actions d'atténuation des émissions de gaz à effet de serre et d'adaptation au changement climatique expérimentée ou mise en œuvre par les acteurs non étatiques? En quoi consistent ces initiatives et quelle est la philosophie derrière chaque stratégie qui finance ces initiatives? Quelles sont les principales difficultés auxquelles les acteurs non étatiques font face dans l'élaboration, le financement, la mise en œuvre, la promotion et la vulgarisation de leurs différentes initiatives? Quel est l'apport attendu du gouvernement dans la valorisation des initiatives porteuses d'espoir pour l'environnement et pour l'emploi des jeunes? Pour répondre à ces questions et bien d'autres, nous avons invité sur ce plateau du Studio Kalangou, Sanu Ayouba, directeur exécutif de l'association Jeunes Volontaires pour l'Environnement, JVE. Bonjour Sani.
Bonjour Monsieur Kouzi.
Et Idrissa Abdou Zakari, qui est le président de l'ONG Niger Vert. Bonjour Idrissa.
Bonjour.
Et Maman Saini, secrétaire générale de l'Association nationale des exploitants du bois du Niger. Bonjour Maman.
Bonjour à vous aussi.
Merci d'avoir bien voulu participer à cette émission. Au micro, Alassane Kouzi Mahmadou. Bienvenue à tous dans le forum du Studio Kalangou. Je le disais en début de cette émission, la contribution des acteurs non étatiques dans la lutte contre le changement climatique et ses effets, les initiatives porteuses d'espoir, c'est de cela qu'il s'agit aujourd'hui. Il n'est un secret pour personne que l'action de l'homme a des répercussions sur l'évolution du climat, les modes de production, de transformation, de transport et de consommation. Sans contrôle ni mesure sont autant de facteurs qui contribuent au dérèglement climatique. De nos jours, nous assistons impuissants à des changements sans précédent qui menacent même l'existence de l'homme. D'une part, le recours et l'utilisation des combustibles fossiles tels que le charbon, le pétrole, l'uranium émettent des quantités énormes de gaz à effet de serre qui contribuent au réchauffement climatique. D'autre part, la déforestation et la coupe abusive du bois pour diverses raisons constituent l'un des facteurs majeurs de la désertification, de l'ensablement des fleuves et des inondations. Le changement climatique, c'est aussi le décalage des saisons, la répartition inégale de la pluie dans le temps et l'espace et la sécheresse. Au vu des conséquences terrifiantes du changement climatique, des efforts sont fournis à l'échelle mondiale, régionale et locale pour limiter les dégâts à travers des actions d'atténuation des émissions de gaz à effet de serre et des actions d'adaptation face aux conséquences justement du changement climatique. À propos, nous recevons donc des acteurs non étatiques qui œuvrent dans la promotion des alternatives et des comportements louables pour la préservation de notre cadre de vie, l'environnement. Sans plus tarder, je m'en vais commencer avec Niger Vert, qui est représenté ici par son président Idrissa Abdou Zakari. Bonjour Idrissa.
Bonjour.
Est-ce que vous pouvez nous présenter de façon brève votre structure, ses principales missions?
Niger Vert est une ONG qui a été créée le 29 octobre 2014 et qui a pour but de contribuer à la préservation, à la restauration et à l'augmentation de la productivité. Nous avons comme mission de contribuer, surtout j'ai dit, l'assistance des communautés face aux résiliences climatiques et à l'adaptation du changement climatique.
Et nous avons également sur ce plateau Maman Saini, qui est le secrétaire général de l'Association nationale des exploitants du bois du Niger. Présentez-nous votre association, l'ANEB, sa date de création et puis sa principale mission.
L'Association nationale des exploitants du bois du Niger donc a eu sa reconnaissance juridique donc, le 3 août 1991. Donc elle a pour mission donc l'approvisionnement durable en bois de grands centres urbains. Donc c'est sa première mission. La deuxième des choses donc on fait des actions donc de reboisement. Donc, et de récupération des terres dégradées dans les zones d'exploitation du bois.
Nous avons également avec nous Sani Ayuba, directeur exécutif de l'association Jeunes Volontaires pour l'Environnement. Sani, présentez-nous le JVE.
Les Jeunes Volontaires pour l'Environnement est une association nationale créée en 2009 à l'aube de la COP15, la conférence internationale sur le climat de Copenhague au Danemark. Et la principale mission des Jeunes Volontaires pour l'Environnement est d'encourager l'engagement éco-citoyen des jeunes pour un développement durable. Donc, tout en mettant les jeunes, les femmes, en tout cas au cœur du processus de développement durable, qui prend en compte l'aspect économique, l'aspect social et l'aspect environnement.
Le changement climatique, qu'est-ce que c'est pour vous et comment est-il constaté aujourd'hui?
Oui, pour nous d'abord, c'est une problématique vécue. Ce n'est plus des questions théoriques ou des questions futuristes pour un pays sahélien ou bien pour un citoyen qui vit au Niger. Déjà, la température, on constate avec aisance que la température ne fait que grimper. Et on dit que quand la température grimpe, il y a beaucoup de conséquences, les maladies, etc. dans un pays tel que le soleil, le Niger. Il y a le climat qui change du point de vue des précipitations. On regarde, moi, quand j'étais enfant, c'est vrai, je suis un peu jeune, mais avec mon recul, la quantité de pluie qui tombe ou en tout cas la durée de la saison des pluies a considérablement varié. Donc ça, c'est des constantes, des choses qu'on voit et on trouve aussi qu'il y a beaucoup d'espèces, telles que des espèces animales ou végétales, qui sont en voie de disparition ou bien dont leur vie est menacée. Et depuis toujours, on rapporte que le désert ne fait qu'avancer. Donc tous ces phénomènes nous amènent à dire qu'il y a quelque chose qui est à la base. Et cette chose, d'après les scientifiques, aujourd'hui, on parle du changement climatique.
Donc le changement. Donc l'homme serait, en tout cas, grandement. La cause.
Absolument, les gens disent que, en tout cas, selon les scientifiques même du GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, ils disent que on parle du changement climatique, c'est l'évolution dans les temps du climat, que ça soit dû aux actions de l'homme ou de façon naturelle. Donc, on prend les deux paramètres parce que beaucoup de gens qui ne croient pas disent que non, c'est une évolution naturelle du climat. Avant, il y avait les dinosaures, les Sahara étaient humides, mais maintenant, donc ils disent que le temps que nous vivons exactement aussi, ça peut être une évolution naturelle.
Mais sauf qu'on a constaté de plus en plus que les changements de ces dernières années ont été si vite par rapport, en tout cas, aux changements qui se sont effectués de façon naturelle.
Absolument. C'est d'ailleurs l'une des raisons qui amène, en tout cas, avec certitude, plus de 80% ou peut-être au-delà même des scientifiques de divers horizons, de différents paramètres au niveau global, d'affirmer, sans risque de se tromper, pour dire que le climat change et que l'homme est à la base. Donc, s'il y a, parce que la principale raison, on dit, c'est parce qu'il y a trop d'émissions de gaz à effet de serre. Et donc, les gaz à effet de serre, nous les trouvons partout. C'est les méthane, c'est les COD, c'est dans le quotidien. Mmh. Et c'est surtout par rapport à l'industrialisation. Mais les gens peuvent dire que le Niger, on a combien d'industries pour parler de changement climatique. Mais l'atmosphère n'a pas
de limite. Le Niger subit un peu la conséquence des émissions des grandes puissances. En tout cas, c'est ce que beaucoup de scientifiques disent, que les pays du Sud, en tout cas, sont les pays les plus vulnérables face au changement climatique, alors même qu'ils participent moins aux émissions de gaz.
Oui, mais s'il faut même parler de la participation, parce qu'on peut peut-être revenir dans les débats, mais de façon même globale, les études récentes montrent que l'Afrique, en tant que continent, contribue à 4% du taux global des émissions de gaz à effet de serre dans les mondes. Mais ce n'est pas une raison. Vous voyez, malgré qu'on contribue peu, mais on subit plus. Parce que, comme je l'ai dit, l'atmosphère n'a pas de limite. Donc, c'est lui qui est en Chine qui émet des gaz à effet de serre. Les conséquences peuvent tomber sur le Niger. Tout comme un Nigérien ou bien le Niger qui émet des gaz à effet de serre, les conséquences peuvent avoir lieu à Paris ou en Espagne.
Un mot par rapport à cette question du changement climatique, ses causes et ses conséquences. Driss Abdou Zakari, président de l'ONG Niger Vert.
Effectivement, j'allais un peu compléter à ce que vient de dire Sani. Et le changement climatique, je peux dire que le Niger vit au quotidien les effets tangibles du changement climatique. Ces dernières années, on a constaté une hausse de la température. La dernière fois, lors de notre rencontre à l'Oasis, Sani a eu à évoquer qu'en 2011, il y avait une vague de chaleur qui avait, en tout cas, fait partir beaucoup de personnes, telles que les vieux et les enfants. Tout cela n'est que les conséquences du changement climatique dont notre pays est en train de subir. Et si vous prenez même la position géographique de notre Niger et les contextes même climatiques naturels très contraignants, plus maintenant les effets néfastes du changement climatique, vient encore accroître ce qui rend surtout précaire et la sécurité alimentaire, la gestion de l'environnement et les modes de vie des ménages. Et même maintenant, si vous voyez l'exode, la migration, pourquoi maintenant les jeunes quittent les villages pour aller vers les centres urbains, c'est parce que dans les villages, il n'y a pas quelque chose à faire. Je peux dire que maintenant, aujourd'hui, la terre ne nourrit plus son homme.
Il y a la faiblesse du rendement agricole.
Voilà, effectivement. Auparavant, au moins, il y avait cette jeunesse-là qui était stable parce qu'il y avait de quoi faire, il y avait de quoi manger. Mais maintenant, la saison hivernale, les rendements culturels ne peuvent pas permettre de couvrir les besoins alimentaires de la population. D'où les autres membres de la famille sont obligés de quitter, aller chercher de quoi manger et envoyer une partie pour permettre à leur famille de subsister.
Maman Saini, secrétaire générale de l'Association nationale des exploitants du bois du Niger, vous coupez le bois. Mais c'est une coupe contrôlée. On va revenir un peu en détail.
Si je parle un peu du changement climatique, je peux vous dire maintenant donc le changement climatique, donc c'est une triste réalité. Parce que le preuve est là, le concret est là. Parce que si vous prenez ici même donc au niveau des Niamey ou bien au Niger, de 2010 à aujourd'hui, vous avez vu des inondations, pas mal des inondations qu'on a suivies. Donc, le fleuve encore a tari jusqu'à un moment où on ne sait même pas, où ça fait même des années où c'est des vierges de 50 ans même qu'ils ont dit
qu'ils n'ont jamais
vu la décrue du fleuve comme cette année. Et si vous voyez encore donc le pluie qui est mal répartie dans le temps et de l'espace, l'endroit où on peut enregistrer 700 mm, vous pouvez voir que dans 2-3 pluies, donc on enregistre toute cette pluie-là. Donc une pluie en abondance, mais qui ne sert à rien. Donc ça là, vraiment, c'est ça qui prouve vraiment le changement climatique vraiment dans le concret. Donc le changement climatique maintenant, c'est pas presque tout le monde. Même ceux du village, maintenant si vous les demandez, les années antérieures, 10 ans, 20 ans qui s'est passé, la situation est maintenant, ils vont vous dire vraiment, il y a une nette différence. Donc vous voyez donc le changement, ça ressemble même le villageois qui ne connaît rien là, ils savent que vraiment le temps a changé.
Le temps change. Ceci étant, nous allons passer à la deuxième partie de notre émission pour aborder donc vos différentes initiatives que vous mettez en œuvre. On va continuer avec vous, Maman Saini, SG de l'Association nationale des exploitants du bois du Niger. Quelles sont, en tout cas, vous, à votre niveau, les actions d'atténuation des gaz à effet de serre que vous faites ou d'adaptation au changement climatique?
Bon, la première des choses, donc, nous, et notre domaine, donc, c'est l'exploitation du bois. Et donc, je tiens à vous dire que le bois énergie, donc, est le produit du secteur forestier le plus développé et le mieux suivi ici au Niger. Donc, en ce qui concerne donc la création des marchés ruraux, c'est la stratégie énergie domestique qu'on appelle CED. Donc, je ne sais pas maintenant, actuellement, si l'État a une politique forestière à part la CED là. Donc, c'est ça qui est venu. C'est la stratégie énergie domestique qui est la politique forestière actuellement donc du Niger. Donc, c'est ça qui a mis en place les marchés ruraux. Mais les gens prennent ou bien comprennent les marchés ruraux autrement. Pourquoi ils les comprennent autrement? Parce que d'un autre côté, donc, les activités se font vraiment et irrégulièrement. Donc, ils ne respectent pas les normes. Donc, les marchés ruraux ont été créés donc, avec l'ordonnance 92037. L'objectif de la création des marchés ruraux, là, c'est d'accroître la régénération de l'écosystème. En ce qui concerne la réglementation des marchés ruraux, donc, les marchés ruraux sont catégorisés donc, en trois catégories. Ce qu'on appelle le marché ruraux incontrôlé. Donc ici, c'est des zones non limitées et sans plan d'aménagement avec la coupe du bois mort. Il y a ce qu'on appelle le marché ruraux orienté. C'est des zones aménagées mais non limitées avec la coupe du bois mort encore. Donc il y a ce qu'on appelle encore le marché ruraux contrôlé. Donc ici, c'est la coupe du bois vert avec le plan d'aménagement, la limitation, le quota avec un temps de coupe, eux encore en ce qui concerne donc le temps de coupe où la coupe est autorisée donc d'un moment à l'autre, donc du début novembre en fin juin.
Quel est le lien que vous faites entre vous, votre association et ces marchés ruraux?
Les marchés ruraux ont des structures locales de gestion qui sont dans les différents marchés ruraux. Donc eux, ils s'occupent donc de la coupe et du ravitaillement du marché. Nous, on s'occupe du transport et la commercialisation.
Et la question de la régénération, elle est dévolue à qui?
Donc, mais en ce qui concerne la question de régénération, donc je peux vous dire, vous savez, l'être humain, vraiment, il n'est pas parfait.
Et encore, à chaque travail, il y a là où vraiment où vous trouvez vraiment c'est positif et il y a où vous trouvez là où encore c'est négatif. Je vous donne donc l'exemple là où le travail est bien fait. Donc, il y a un marché rural qui est dans les zones maradis là. Donc, le premier inventaire, c'était en 92 avec le projet Énergie d'eau. Et le projet Énergie d'eau, donc, ils ont fait l'inventaire. Donc, ils ont commencé l'exploitation. Donc, ça a donné donc une capacité d'exploiter 30 mm cubes du bois. Donc, 4 ans après, le projet PAFEN est revenu. Donc, ils ont fait un autre inventaire. Ça a donné donc 40 mm cubes du bois. Donc, tout récemment, c'était en 2016, qu'ils ont fait un nouveau inventaire. Donc, ça a donné 50 mm. Le mètre cube, c'est un hectare. Un hectare, c'est 1 mètre sur 1 mètre. Donc, 1 mètre sur 1 mètre. Vous voyez donc, si vous avez l'habitude d'aller dans les marchés, vous avez dû voir des piquets, non? Où on place du bois. Oui. Donc, le mètre cube, donc, c'est 1 mètre sur 1 mètre du bois. Si on va mettre ça donc, dans la vente et dans les marchés. Donc, si vous regardez ça,
bien.
Là où au début, ça a fait 30 mm cube. Maintenant, au fur des années, maintenant, ça fait 50 mètres cube. Donc, la régénération a accru ou quoi? Hein?
Il y a une augmentation.
Il y a une augmentation. Donc, vous voyez donc,
Mais vous, qu'est-ce que vous faites pour, en tout cas, améliorer ça?
Nous, tout ce qu'on fait pour améliorer, la première des choses, c'est de sensibiliser donc la population sur le respect des normes, sur le respect de la réglementation, sur le respect des normes, sur le respect du quota. Donc nous, c'est le grand travail qu'on fait. Donc on fait toujours des sessions de formation et de sensibilisation donc sur ça là.
Sani Ayouba, directeur exécutif de l'association Jeunes Volontaires pour l'Environnement, est-ce que vous pouvez nous dire, vous à votre niveau, quelles sont les actions que vous menez en tout cas pour contribuer à l'adaptation ou à l'atténuation des gaz à effet de serre.
En tout cas, je me réjouis de voir que au niveau de la coupe du bois, parce que quand on sait énormément que sur la question du changement climatique, la question du déboisement a un rôle très important.
Oui.
En tout cas, contribue énormément à dégrader l'environnement, contribue énormément à l'émission des gaz à effet de serre, parce que les arbres sont des puits carbone.
Qui capte le carbone, et s'il y a plus d'arbres...
Et si on libère ces carbones en coupant le bois, donc, et si de leur côté, ils arrivent à mettre des actions nobles dans ces genres, c'est très bien, c'est salutaire. Mais parlant de nous, au niveau des jeunes volontaires pour l'environnement, de la création aujourd'hui, nous menons des actions d'adaptation et d'atténuation. Donc, les actions visent essentiellement à informer, sensibiliser, en tout cas les jeunes surtout et les femmes sur ces questions à travers des initiatives telles que la promotion de l'éducation relative à l'environnement, que ce soit en milieu scolaire ou en milieu rural. Mais également, depuis 2014, nous étions sur un projet d'atténuation et d'adaptation en même temps. C'est un programme qui concerne les secteurs énergie, qui vise à promouvoir le four à balle de riz. Donc, le four à balle de riz, c'est un foyer amélioré qui utilise la balle de riz comme combustible. Et la balle de riz, c'est l'écorce du riz padi, donc qui représente à peu près 21% du poids du riz. Donc, c'est différent du son. Donc, avec les moulins du riz du Niger ou certains types de moulins, on arrive à extraire les riz d'un côté, la balle de l'autre côté, et le son de l'autre côté. Donc, vous voyez, donc la balle, c'est ce que souvent les gens utilisent pour fabriquer les briques en argile. Mais à part ça, il n'y a pas d'activité, il n'y a rien qu'on puisse faire avec. Donc, ça devient comme un déchet au niveau des usines de riz du Niger. Les gens, vous allez les voir partout, quoi, à côté des usines. Donc, nous, cette technologie qu'on a importée vise à récupérer ça. Ces déchets-là, ces déchets agricoles qui n'ont pas de valeur marchande, ça veut dire qui est gratuit, et à l'utiliser comme combustible à la place du bois. Donc le four que nous utilisons permet d'utiliser directement. Tu prends la balle de riz, tu n'as pas besoin de transformer ça en quoi que ce soit, tu mets ça dans ces fours et ça permet aux femmes d'utiliser ça.
Cela évite de faire recours au bois.
Absolument, cela évite de faire recours au bois et cela contribue également à préserver la santé des utilisateurs ou utilisatrices parce que ça ne dégage pas de fumée. Vois un peu. Et en plus, l'utilisation est telle que sur les points du... Parce que dans les projets, en termes d'adaptation, c'est renforcer la résilience des femmes. Donc, ça permet d'économiser. Parce que les femmes qui utilisent le bois pour faire la cuisine ou d'autres activités commerciales, elles sont obligées d'acheter une certaine quantité de bois, de bois de 1000 francs, 500, 10 000, selon la semaine ou selon la quantité d'essais qu'elles veulent faire. Mais cet argent-là est économisé. elles peuvent l'investir pour soit l'éducation ou bien pour autre chose. Donc voilà aussi l'une des raisons que nous avançons pour amener les gens à l'utiliser. Donc, et ces fours, comme je l'ai dit, depuis 2014, nous avons travaillé tout au long de la vallée du fleuve. Parce que c'est autour de la vallée du fleuve qu'il y a des rizières. Oui. Et là où il y a des rizières, il y a du riz. Là où il y a du riz, il y a forcément de la balle de riz. Donc on peut dire de 2014 à maintenant qu'on a pu, en tout cas, divulguer ou disséminer, comme on l'a dit, plus de 2000 à 3000 fours à balle de riz. Bon, imaginez l'utilisation d'un four à balle de riz pendant une année, parce qu'on avait travaillé surtout avec les femmes étuveuses de riz qui font l'étuvage du riz. Elles nous disaient, en moyenne, elles utilisent 6000 francs de bois pour 6 sacs par semaine. Mm-hmm. Donc, si dans leur groupement, et chaque la quantité en fait du bois qui est préservé, on peut dire que même si c'est chaque femme préserve en tout cas un arbre par mois, dans le mois, ça veut dire que chaque femme a préservé 12 arbres. Et si on fait le nombre de femmes ayant utilisé, ça nous permet de dire que notre action a permis de préserver la coupe ou l'utilisation du bois de 100 arbres par an ou de 200 arbres. Mm-hmm. Ça, on peut faire des calculs pour justifier quand même l'impact de ce projet. Et aussi, c'est pourquoi en perspective, on pense même à aller sur les marchés carbone pour récupérer, parce que sur les questions internationales, on dit si tu arrives à préserver du carbone, tu peux aller vendre ça sur les marchés pour récupérer de l'argent et renforcer ton action. Et ce programme de 2014 à maintenant a été soutenu par plusieurs partenaires. Et aujourd'hui, nous sommes sur une phase où nous travaillons d'ailleurs avec Niger Vert et ANEB pour faire des briquettes, pour que les exploitants du bois aussi, parce que ce n'est pas de la concurrence.
On ne peut pas. J'allais dire que vous leur cassez le marché.
Le marché en mettant quelque chose de gratuit. Donc c'est pourquoi on travaille avec eux, pour que chacun puisse se retrouver, parce que nous ne voulons pas aussi créer des chômeurs. Mmh. Parce que dans ses propos, il dit que c'est un service social que la NEB fait. Mmh. Mais vraiment avec le programme, il y a un programme qu'on appelle PISCA, le programme innovant des sociétés civiles de l'ambassade de France. Donc ce programme nous a appuyé en partie l'une des activités qui consiste vraiment à mettre une synergie autour des acteurs de la thématique et aussi à renforcer la résilience de ces communautés tout au long de la vallée du fleuve. Donc voilà.
Bien, nous allons revenir maintenant à Idrissa Abdou Zakari, président de l'ONG Niger Vert. Alors, à votre niveau, quelles sont, vous, les actions d'atténuation et d'adaptation que vous mettez en œuvre?
Et ici, à notre niveau, au niveau de notre association, une structure, et en tout cas, on fait des actions de sensibilisation et surtout d'implication des jeunes dans la lutte contre les effets du changement, de lutter contre les effets du changement climatique. On sensibilise surtout la population, même en tant que telle, à vraiment à faire beaucoup des actions de plantation d'arbres et des récupérations de terre, parce que on peut aider cette population, on peut les apprendre les techniques de récupération de terre afin qu'ils puissent les faire eux-mêmes dans leur champ. Mmh. Parce que vous n'êtes pas sans le savoir que maintenant, la dégradation des sols est accélérée. Donc souvent, il y a des sols qui ne produisent plus. Et si on arrive à apprendre ou bien à former ces paysans-là à récupérer leur propre terrain, ils n'ont pas besoin d'attendre quelqu'un pour récupérer leur propre terrain. Mmh. Et aussi, et comme il l'a dit, on intervient aussi dans le domaine énergétique. Mmh. Et depuis 2016, on a commencé à réfléchir sur un projet qui consiste à créer une source d'alternative au bois de chauffe. Mmh. Donc c'est à ce sens qu'on a développé le charbon vert. Le charbon vert, dans un premier temps, c'est un charbon qui a été fabriqué uniquement à base de la jacinthe d'eau. Et pourquoi la jacinthe d'eau? Tout à l'heure, vous venez de parler, de dire que vous n'avez jamais vu, en tout cas, une décrue de ce fleuve de l'année dernière. Oui. Vous n'êtes pas sans aussi le constater qu'il y a une prolifération de la jacinthe d'eau.
Oui, effectivement.
Et qui constitue aussi une menace, parce que cette jacinthe d'eau fait perdre le fleuve, en tout cas, une énorme quantité par an. Oui. Donc, pour réduire surtout les pertes en eau, donc nous, on a jugé utile de transformer cette jacinthe d'eau qui n'est pas valorisée à une source d'énergie qui permet aussi de réduire un peu la pression sur les forêts. Et on a encore poussé les réflexions pour dire que bon, il n'y a pas que la jacinthe d'eau qui est une plante envahissante. Il y a aussi le Cidia cordifolia, parce que le Cidia cordifolia aussi, c'est une plante envahissante. Surtout,
c'est ça qu'on appelle en zarma congoria.
Oui, donc qui envahit les terres de culture et les terres de pâture. Le Cidia cordifolia, à l'état frais, les animaux n'en mangent pas, ni l'homme. Donc, c'est vraiment un fléau qui est là. Et nous, on préfère utiliser, récupérer ces fléaux-là qui constituent dans un premier temps des problèmes et des menaces pour les transformer vraiment à une opportunité, à une occasion de développement qui est le charbon vert. Et tout à l'heure, il vient de dire, Et on travaille avec le ministère de l'Environnement à travers la direction. Donc, on a pu avoir quelques informations concernant même l'utilisation du bois. Et nous ont fait comprendre que le Niger actuellement a une besoin de plus de 6 millions de tonnes par an. Or qu'on n'a même pas de forêt qui peut nous produire 2 millions. Donc, d'où, en tout cas, un gap de plus de 4 millions de tonnes à combler. Mmh. Et si ces résidus ou bien ces alternatives peuvent combler, parce que déjà, il y a une production. Mmh. Avec ces alternatives, plus le gaz, on peut combler, on peut fédérer toutes les énergies ou bien les alternatives, essayer de combler le gap. Ça va permettre à ce que notre environnement puisse souffler et régénérer.
Et que les gens puissent trouver en tout cas l'énergie nécessaire pour la vie
quotidienne.
Et ça,
c'est même aussi l'occasion de vous rappeler que tout récemment, avec les associations JVE qui ont organisé un atelier porte ouverte sur les énergies renouvelables, où on a fait une exposition de tout ce qui est énergie ou bien alternative au bois. Donc on a eu à faire la première édition qui a passé et on compte même aller loin, essayer de créer une alliance pour la question propre.
Alors, comment vous faites pour la vulgarisation à l'échelle locale et nationale de vos initiatives?
Oui, en tout cas, pour le moment, on essaie de sensibiliser, surtout parce que la première des choses, c'est la sensibilisation. Et souvent, il y a même des solutions qui sont là, mais qui sont méconnues par la population. Pour amener cette population à vraiment à dévier vers ces solutions, il faut qu'on puisse les sensibiliser. Parce que vous n'êtes pas sans le savoir que le Nigérien a l'habitude d'utiliser le bois. Ça fait des milliers, des décennies qu'ils utilisent le bois. Maintenant, pour quelqu'un qui n'a jamais utilisé une autre source d'énergie, le fait de le dire directement, de laisser ce qu'il a déjà habitué et de se virer à une autre source, il ne va pas comprendre. Mais si tu arrives à lui montrer les avantages et les inconvénients de ce qu'il est en train de faire, je pense bien qu'il va comprendre et accepter ce que tu lui proposes.
Et c'est ce que vous êtes en train de faire.
Et c'est ce qu'on est en train de faire.
Le charbon vert, est-ce que ça marche vraiment? Ça dégage de la fumée ou pas?
Le charbon vert, c'est un charbon qui ne dégage pas de fumée. On peut dire que parmi même les combustibles, c'est le moins toxique.
Est-ce qu'il demande un matériel adéquat pour son utilisation?
Le charbon vert, c'est comme le charbon de bois. À la différence du charbon de bois, le charbon vert, c'est un charbon qui n'émane pas de la coupe du bois, mais qui utilise les résidus.
Quelle est sa forme?
Pour le moment, la forme, on a des formes sphériques. Mmh. Et le charbon vert, c'est un charbon qui a les mêmes caractéristiques que le charbon de bois. Et mieux encore, c'est un charbon qui résiste plus que le charbon de bois. Et qui a un pouvoir calorifique plus élevé que le charbon de bois.
Donc, la capacité de donner de l'énergie suffisante.
Oui, et ça dure plus que, sur le temps même, ça dure plus que le charbon de bois. Et ça s'utilise de la même façon que le charbon de bois. De la même manière que les femmes utilisent pour faire la cuisson avec le charbon de bois, c'est de cette même manière que le charbon vert s'utilise.
Est-ce qu'il est plus cher que le charbon?
Il est encore moins cher que le charbon de bois.
Bien. Nous en venons à vous, Maman Saini, ESG de l'Association nationale des exploitants du bois. Est-ce que vous pouvez nous dire à votre niveau quel est le niveau d'implication des populations dans ce que vous faites, notamment en termes d'adhésion à l'idéologie que vous promouvez?
En tout cas, en termes d'implication de la population, donc moi je peux vous dire que l'État, c'est maintenant même que l'État commence à parler donc de transfert de compétences, moi je peux vous dire que dans le domaine d'exploitation du bois, donc le transfert de compétences avec nous, les transporteurs et l'État, ça a commencé depuis même 91. Parce que pourquoi je vous dis ça? Donc, maintenant, dans chaque marché, il y a ce qu'on appelle le structure locale de gestion. Donc, chaque localité donc, est censée à gérer son forêt. Donc, maintenant, si le bois est coupé, 100% du prix de vente du bois donc, reste à la population. Et ce qui est même donc, vraiment très appréciable, donc en termes de taxes, donc les taxes que le camionneur paye au marché, donc au marché rural du bois, donc de là-bas, 50% est prélevé directement pour donner à la population pour le travail quotidien en ce qui concerne donc l'aménagement, donc et comment on appelle ça, les travaux de développement donc villageois. Donc, vous voyez donc l'implication de la population. Donc, en ce qui concerne donc la taxe, là, je pense que, en ce qui concerne le carnet de taxes non falsifiables, là, donc c'est dans le domaine de l'environnement seulement qui on prélève de la source. Sinon,
partout où tu prélèves des taxes. Donc il faut revenir au trésor d'abord, donc pour prélever donc cette enracine là il faut revenir.
Cette taxe, elle est gérée par quelle structure?
Elle est gérée par les structures locales de gestion.
Donc pas la mairie?
Non, j'ai dit structure locale de gestion, le local. Donc là, comment on appelle ça? Et le lieu où le bois est exploité. Donc il y a un bureau là-bas où il y a le gestionnaire qui s'occupe du carnet, donc qui est du village, donc le président. Donc
Finish, l'argent va où?
Au finish, donc l'argent. Donc je vous dis que si on là, le prix de vente du bois,
de gestion.
La structure locale de gestion, donc les 50% là, donc ça revient et donc au village. Donc les 50% là, je vous dis, donc et c'est réparti donc en trois parties. Donc une partie donc pour le en deux parties plutôt. Une partie donc pour l'aménagement, donc et une partie donc pour le développement du village.
Est-ce que vraiment l'accent est mis sur l'aspect régénération, reboisement? Puisque si on continue à couper, ça veut dire qu'on va se retrouver un jour où il n'y a plus d'arbres à couper.
Oui.
Est-ce que il y a cet équilibre entre la coupe et le reboisement ou bien cela reste encore?
Oui, il y a un équilibre parce que maintenant les marchés du bois, donc c'est un bloc qu'on fait. Donc, un bloc qu'on répartit en trois parties. Donc, cette partie-là, donc le forestier avec les structures locales de gestion, en commun accord, on fait l'inventaire pour voir donc la quantité du bois qu'on devrait exploiter. Mm-hmm. Donc, on définit le quota. Donc, quand on définit le quota, donc dès que le quota est atteint, donc chaque bloc est exploité en trois ans. Et si vous arrivez
en fonction d'un quota, donc
on va vous dire donc on détermine le quota pour dire donc voilà le
à
nombre de quotas.
De ce, si on atteint ce quota, on arrête de.
Si
de
on
couper.
Atteint ce quota, on arrête. On revient dans cette zone là. Mm-hmm. Donc pour laisser cette zone là se régénère. Donc ce qui fait qu'on fait rotation. Donc pour revenir, donc si on exploite ces zones là 3 ans et on revient dans la deuxième zone, on fait 3 ans. Donc voilà, donc avant de revenir dans cette zone là, il faut 9 ans.
En neuf ans.
Donc en 9 ans, donc c'est la régénération déjà est là.
Mais est-ce que vous vous assurez vraiment que la zone délaissée pour récupération, pour régénération gens ne retourne pas, en tout cas pour contourner le contour?
Il y a ces pratiques-là. Donc vraiment, certaines zones, les gens respectent donc ces règles-là. Mais dans certaines zones-là, comme je vous ai dit donc au début, là, donc vraiment, dans tout travail-là, on ne peut pas avoir donc en partiel
100% de réussite.
Donc, en ce qui concerne encore les restournes là, donc il y a un montant qui est destiné uniquement à l'aménagement. Donc on fait récupération des terres chaque année, donc on cherche un endroit dégradé, donc où on fait la récupération des terres et on reboise.
Vous pouvez nous donner un exemple de zone, d'endroit, de localité où ces pratiques ont lieu?
Donc maintenant, si vous prenez donc le marché rural de Kenkerougou et Bellari, qui sont dans la zone de Saïla. Mm-hmm. Donc là, l'exemple type est là, où vous allez voir, eux, quand ils ont même récupéré la terre, ils ont reboisé, ils ont mis même de la paille. Donc si vous voyez, donc, vous n'allez même pas croire qu'au début, c'était des glaciers.
Ça, c'est dans la région de Tilaberi. Cela s'est fait aussi dans les autres régions.
Oui, ou bien. Maintenant, si vous prenez encore, donc ici, la réussite, je peux vous dire, ici, dans la zone de Tilaberi, vraiment, c'est Saï. Et Saï est spécifique, le marché du Riro de Tchichangchargo et de Bellari. Mais à Maradi, je vous rassure que là-bas, c'est la réussite à 100%. Mais ici, à Toro, vraiment, là, c'est pas une réussite. Parce que, et encore, qu'est-ce qui fait qu'ici à Toro, les zones étaient vraiment très dégradées. C'est une zone vraiment qui subissent pas mal de pression. Et la pression, c'est quoi? C'est la ville de Niamey. La ville de Niamey vraiment a un besoin très crucial, donc en bois énergie.
Et du coup,
donc,
cette réglementation n'est pas tout à fait respectée là-bas. Celle de prendre une zone exploitée pour un temps, laisser régénérer.
En tout cas, elle n'est pas respectée à 100%. Bien. Elle n'est pas respectée à 100%. Et comme vous l'avez constaté, donc maintenant le besoin en bois et énergie en Niamey vraiment est très crucial. Et malgré que...
D'où l'intérêt des alternatives énergétiques que propose par exemple...
Oui, maintenant si on parle des alternatives, moi je n'ai pas dire non. L'alternative vraiment ça contribue. Mais... Vous voyez maintenant le Niger, malgré que tout récemment le Niger est pays, comment on appelle ça, producteur donc de pétrole, à chaque fois il y a des pénuries du gaz. Hein? Donc, vraiment, l'utilisation du bois est incontournable. Donc, on n'a pas le choix. Maintenant, moi, j'ai sens vraiment d'utiliser, donc, comment on appelle ça, le gaz. Mais maintenant, à ma grande surprise, je viens chercher le gaz, je ne trouve pas. Donc, je vais faire comment? Mais j'ai pas le choix d'utiliser le bois. Hein?
Cela revient à ceux qui ont la responsabilité de disponibiliser les alternatives.
Donc vraiment, c'est la disponibilité d'alternatives vraiment qui n'est pas suffisante.
Toujours garantie. Bien, nous passons à la troisième et dernière partie de cette émission pour aborder la question du financement et des difficultés que, en tout cas, les uns et les autres rencontrent dans la promotion de leurs initiatives. Abdou Zakari Idrissa, président de l'ONG Niger Vert, qui finance, en tout cas, vous, vos actions que vous mettez en œuvre?
Oui, c'est là où, en tout cas, je tiens à saluer vraiment la jeunesse. Et tout ce que la jeunesse est en train de faire, c'est par pure conviction. Mm-hmm. Et la majeure partie des activités, en tout cas, est menée par la jeunesse, est financée et autofinancée par la jeunesse. Si je prends l'exemple de le cas du charbon vert.
De quelle façon?
Et tout ce qui a été fait dans les recherches, pour les recherches, et jusqu'à la vulgarisation du charbon vert, a été soutenu par la contribution propre des membres de la structure.
À travers des cotisations?
À travers des cotisations que nous, on arrive à verser, à faire quotidiennement ou bien mensuellement. Donc, c'est ce qui nous a permis de faire nos recherches durant ces années et de continuer même à faire la vulgarisation de ce charbon vert. Et jusque-là, on n'a pas, en tout cas, un appui nous permettant de faire une vulgarisation à l'échelle et même une production à l'échelle et de voir dans quelle mesure on peut former des jeunes qui vont produire ce charbon et commercialiser ce charbon.
Mais qu'est-ce qui explique cela? Est-ce que c'est parce que votre projet n'est pas convaincant au vu des partenaires ou bien vous ne partez pas vers les partenaires ou bon?
En tout cas, je ne dirais pas que le projet n'est pas convaincant parce qu'on a eu à représenter le Niger même au 8e jour de la francophonie. Je vous assure que les autorités ivoiriennes ont proposé à ce qu'on puisse rester en Côte d'Ivoire pour implémenter notre première unité de production. On s'est vu que c'est vraiment, en tout cas, une initiative nigérienne donc, qui doit rester au Niger et qui doit en profiter par le Niger. Parce que nous, ici au Niger, on n'est plus menacés que eux. Parce que nous, notre condition, nos conditions climatiques sont plus contraignantes que ceux de la Côte d'Ivoire.
Mais en quoi vous résumez votre difficulté à trouver des partenaires, en tout cas, des partenaires à même vraiment de soutenir votre initiative?
En tout cas, on a eu à rencontrer plusieurs partenaires à qui on a proposé le projet. Moi, je pense bien que cette question de financement, maintenant, doit être réglée par l'État. L'État doit structurer, organiser les associations des jeunes qui interviennent surtout dans le domaine énergétique ou bien énergie alternative. L'État doit surtout les orienter et les faciliter les financements. Et si on a l'implication de l'État, je suis sûr que les bailleurs de fonds ne vont pas en tout cas et fermer leurs portes, si je peux le dire ainsi, comme on le constate maintenant. C'est vrai, le partenaire peut te dire, ah, ton projet est pertinent. Fais le document, dépose le document. Tu fais le document, tu les soumets le document, ils ne vont même pas te répondre. Donc, tu ne peux pas comprendre pourquoi le partenaire n'a pas réagi. Mmh. Et ils ne te donnent même pas un feedback pour te dire, voilà les motifs pour lesquels nous, on n'a pas pu te financer.
Alors que vous pensez que s'il y a un soutien quelque part de l'État qui suit ce processus, cela pourrait donner des résultats.
Oui, l'État peut vraiment aider la vulgarisation des énergies alternatives. Donc, l'État peut créer un cadre pour, dans un premier temps, recenser les énergies alternatives et essayer de voir dans quelle mesure il peut toutefois les organiser afin qu'ils puissent vraiment contribuer à la lutte ou bien à faciliter les conditions de vie pour les ménages.
Bien. Sani Ayouba, jeune volontaire pour l'environnement, comment est-ce que vous percevez la question du financement des actions, en tout cas visant l'adaptation ou l'atténuation, en tout cas les initiatives des acteurs non étatiques qui œuvrent aujourd'hui dans ce domaine?
Oui, je voulais avant de répondre, dire juste à la suite des propos de Saini par rapport à l'exploitation du bois. Moi, je trouve que ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de gaz, qu'il y a des pénuries, que je ne vais pas changer ou bien réduire ma consommation du bois. Aujourd'hui, on parle du changement climatique dont nous suivons les conséquences. Donc, c'est vraiment, ça doit être plus un engagement personnel, une prise de conscience collective qui nous dit que aujourd'hui, même s'il n'y a pas de gaz, si j'essaie d'utiliser, je peux aller au-delà pour chercher par partout où je peux trouver pour le faire. Donc je pense que les jeunes doivent aller dans ce comprendre qu'on ne le fait pas pour l'État, on ne le fait pas pour quelqu'un, on le fait pour nous-mêmes, on le fait pour notre pays, on le fait pour les générations futures, on le fait pour préserver notre environnement. Maintenant, s'agissant de la question du financement, je suis entièrement d'avis avec ce que Zakar vient de dire, parce que nous, JVE, l'année prochaine, on aura 10 ans d'existence, de 2009. Il a fallu même notre arrêté 2012 pour qu'on puisse avoir l'arrêté de reconnaissance. Et il a fallu 2011, à partir de 2014, pour qu'on puisse même avoir un siège, avoir un personnel, tout ça. Mais la plupart des actions des ONG ou des associations de jeunesse locales, nationales, nigériennes, c'est l'autofinancement, c'est purement la conviction. Aujourd'hui, les gens viennent de façon volontaire, de façon bénévole. Ils
participent, parce qu'ils croient
en l'idéal, parce qu'ils ont compris la nécessité. Parce qu'on ne peut plus rester pour dire que ce qu'on voit à la télé, là, ça va venir un jour. On pense que ça doit commencer par nous. L'avenir se prépare dès aujourd'hui et nous voulons être des jeunes qui vont changer, qui vont transformer les choses. Maintenant, pour les financements, c'est vrai, nous, avec l'expérience, certaines portes sont un peu plus ouvertes pour nous. Parce que les gens disent, on vous connaît parce que vous avez fait des actions. Parce que, aussi, c'est à l'œuvre qu'on peut, ça peut rassurer. Parce que les partenaires souvent disent qu'ils ne sont pas rassurés avec des structures des jeunes. Vous êtes trop jeunes pour gérer tel montant. Vous êtes trop jeunes pour prétendre faire ce que vous voulez faire. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes ou beaucoup de structures ont fait leurs preuves. Les partenaires doivent avoir confiance en eux. Et l'État aussi, au-delà de l'appui technique, doit rassurer les partenaires que telle organisation est crédible. Parce que le financement est toujours lié avec la question de la crédibilité. C'est vrai, je vous l'ai dit tout à l'heure, nous, depuis 2014, on a eu des appuis avec la SNV. Après ça, il y a l'ambassade des États-Unis. Et après, actuellement, le projet sur lequel nous travaillons avec ces différentes structures et les femmes est pris en charge cofinancé, parce que c'est toujours ça souvent. Ce n'est pas à 100%. L'ambassade contribue à 70% et l'organisation, on est obligé de contribuer à 30%. L'ambassade de France, ça sur le projet avec l'ambassade de France, ça fait 2 ans que nous sommes dans un processus comme ça. Mais souvent, les 30% là proviennent d'où? C'est souvent la valorisation des compétences, de la mise à disposition du personnel, de la mise à disposition de la logistique qu'on a. Donc, c'est un peu de cela qu'il s'agit. Mais véritablement, c'est une question plus souvent de crédibilité, c'est une question de référence aussi, de recommandation. Et puis de la méconnaissance aussi. Si on ne vous connaît pas, vous ne faites pas des activités, c'est pas facile que le partenaire ait confiance pour vous donner des ressources ou bien pour vous accompagner.
Alors nous terminons avec vous, Maman Saini, de l'Association nationale des exploitants du bois du Niger. Par rapport à cette question de financement, quelles sont vos difficultés?
En tout cas, nous, à ce qui concerne le problème est pareil. Donc, nous, en ce qui concerne même donc la réactualisation des plans d'aménagement, je vous dis que depuis l'avènement de deux projets-là, les projets Énergie 2, le projet Les Parfums-là, donc le marché rural ont été délaissés. Mais quand même, Dieu merci, donc en 2014, on a eu un projet qu'on appelle Fonabes, donc nous est venu en appui. Donc, actuellement même, donc on a réactualisé jusqu'à 13, on a réactualisé le plan d'aménagement donc de 13 marchés ruraux du bois. Donc c'est comme ça qu'Isani a dit, si on dit vraiment on va ouvrir les yeux pour l'État là, donc vraiment on va tomber dans l'eau. Donc ce qu'il allait de faire vraiment, c'est de réindemniser nos structures et vraiment de qu'on soit vraiment des structures très convaincantes devant le partenaire. Donc vraiment pour qu'on négocie tout, pour qu'on fait des plaidoyers, pour qu'on fait des lobbying donc à nos projets pour leur accroissement.
Bien, si vous avez autre chose à ajouter, nous concluons. Sani Ayouba.
Oui, moi je voulais juste dire que la question du changement climatique, c'est une thématique qui concerne tout le monde. C'est vraiment une thématique qu'il faut dire que non, moi je suis juriste, ça ne me regarde pas, je suis docteur. C'est une thématique qui concerne tout le monde, la dégradation de l'environnement. Nous devons tous vraiment prendre conscience de cela et nous engager pour agir en faveur du climat.
Et c'est sur ces mots que s'achève le forum d'aujourd'hui qui portait sur le thème « Contribution des acteurs non étatiques dans la lutte contre le changement climatique et ses effets, les initiatives porteuses d'espoir ». Nous venons d'écouter des présentations assez édifiantes d'initiatives porteuses d'espoir pour l'environnement et pour l'emploi des jeunes. des initiatives qui se présentent sous forme d'alternatives allant de la sensibilisation, la promotion des fours à balles de riz et du charbon vert à base de jacinthe d'eau ou de sida cordifolia à lieu et place du bois. Pour ce qui est de la coupe du bois proprement parlée, nous avons vu qu'il s'agit aussi de secteurs régulés avec des hommes dont le souci est au-delà de la simple coupe, mais surtout d'une coupe contrôlée suivie de reboisement et régénération. La question du financement des différentes initiatives est revenue et à ce niveau, il ressort un besoin soutenu d'un appui aussi bien des partenaires que de l'État. Nous étions accompagnés de Sania Yuba, directeur exécutif de l'Association des jeunes volontaires pour l'environnement, Idrissa Abdou Zakari, président de l'ONG Niger Vert et Maman Saini, secrétaire général de l'Association nationale des exploitants du bois du Niger, ANEB. À la présentation, Alassane Kouzi Mohamedou.